Bonjour et bienvenue dans l'émission Ma commune est utile. Donc, je me représente Gérard Queval. Je vais animer cette émission avec à mes côtés Alain Castan, président de l'Association des maires ruraux de la Dordogne, et Brigitte Cabirol, maire de Saint-Barthélemy. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous aurons plus André, qui est un gilet jaune, qui interviendra au cours du débat. Donc, Alain, première question.
D'abord, bonjour.
Bonjour.
Qu'as-tu pensé de l'intervention de M. Macron ces derniers jours ?
Ah ben, je vais de suite dire que son intervention a commencé par une phrase où il dit « Je mène une politique depuis 2 ans qui marche, donc je vais la poursuivre ». Donc déjà, il commençait mal. Et c'est vrai que quelque part, les maires, bon, il en a été question, mais très, très frileusement. Et c'est vrai que nous ne sommes pas du tout satisfaits des choix qu'a fait M. Macron. Alors, quelques-uns, bien sûr, vont dans le bon sens, mais au niveau de la ruralité, rien sur les finances locales, rien sur la loi NOTRe, rien sur la mobilité, rien sur le numérique, en définitive, presque rien. Donc les quelques mesures qu'il a prises ne vont pas dans le bon sens. Et c'est vrai, c'est pour ça que 80% des maires, 90% des maires ruraux ne sont pas satisfaits après pratiquement plusieurs mois de grands débats.
Et toi, Brigitte
Ben moi, je pense un peu à la même chose. Hein. On a d'abord assisté à une mise en valeur du président. Bon, il est président, c'est un peu normal. Par contre, il a usé de la brosse à reluire. Ce soit les journalistes qui ont pris la parole, les 3 premières questions, et ben, on se demande ce qu'ils attendaient. Est-ce que c'était pour les valoriser à eux plutôt que poser des véritables questions? Je pense que ça a été vraiment un discours à sens unique qui m'a forcément déçu. On s'attendait à mieux.
Et toi, André, tant que gilet jaune.
Oui, eh bien. Excuse-moi, André, je voudrais juste dire pourquoi c'est moi qui ai souhaité qu'un gilet jaune vienne nous rejoindre. Parce que dès le départ, à nos cahiers de doléances et puis au grand débat, beaucoup de gilets jaunes ont participé, surtout des gens responsables et des gens qui étaient contre la violence. Et j'ai trouvé intéressant parce que les revendications collaient à peu près à ce que nous demandions, et j'ai souhaité, à titre d'ouverture, encore une fois, puisqu'on l'avait fait au début de l'apparition des gilets jaunes, j'ai souhaité qu'un gilet jaune vienne donner son avis sur justement la prestation de M. Macron. Alors, André, à toi.
Eh bien, ce que nous avons ressenti, d'abord, il faut savoir que les gilets jaunes s'organisent, que grâce à M. le maire de Rouffignac, nous réunissons tous les jeudis de 20h30 à 23h, où nous discutons. Et nous avons discuté des propos de M. Macron. Nous lui avons trouvé une égale suffisance. Et alors, ce qui nous a surpris, parce qu'il fait une opposition formelle au RIC, c'est que lorsque un monarque républicain nous indique qu'il n'avait pas compris, qu'il n'avait pas saisi l'importance que pouvaient avoir ces mesures sur ce qu'il appelait la France invisible, ça nous donne à penser que notre RIC, si tous ces députés n'ont pas pu faire remonter l'information que dans les campagnes, il y avait des problèmes vraiment cruciaux qui n'existaient pas dans les grandes villes, le RIC s'imposait, que la démocratie représentative ne représentait plus rien.
Oui, donc ce que je comprends, c'est que Macron a joué son rôle vraiment de super président, non pas à l'écoute. Je suis celui qui va apporter toutes les réponses, même contre ses propres élus, quoi.
Mais c'est pas difficile. Je vais prendre un exemple. Il nous propose de créer une maison des services publics par canton. Vous imaginez par canton. Déjà, il y a des gens qui sont à 25-30 km de leur canton. Alors, au terme de mobilité, je ne sais pas comment il faut faire. Mais en définitive, M. Macron, qui n'a jamais mis les pieds à la campagne, M. Macron, je le lui dis, mais on a déjà 36 000 maisons des services publics. Ça s'appelle la mairie. Et à la mairie, tous ces sujets-là, on sait le faire et on s'en occupe déjà. Donc il suffit de donner plus de moyens aux maires, et nous, on va s'en occuper du service public.
On avait parlé un petit peu la semaine dernière de l'école, mais bon, sur la question des services publics, sur notre département, on entend fermer presque toutes les perceptions. Alors, avec les conséquences que ça a derrière pour vous, les élus. Est-ce que tu peux en dire un petit mot parce que tu es déjà concerné par...
Alors, je voulais d'abord préciser une chose sur les écoles. On se targue, on ne va plus fermer aucune école, mais on se fout de nous. C'est actuellement ce qui se passe. Je veux dire, on ne parle pas de fermeture d'école, on peut supprimer des classes, c'est ce qui se passe. Les fermetures d'école, on dit c'est le maire qui décidera, c'est actuellement ce qui se passe. On ne ferme pas une école sans que le maire ait signé. C'est d'ailleurs pour ça, ça nous rend responsables. C'est de notre faute à nous si on ferme des classes. Par contre, on ne met pas à disposition des enseignants. Bon, là, c'est bien, s'il va jusqu'au bout, je peux comprendre. Moi, je réclame de toute façon des effectifs bas pour les classes. Il n'y a pas de raison qu'on ait des CP et des CE1 à 12, alors que dans nos campagnes, on a aussi des enfants à problème. Je l'ai dit, il faut baisser. 24, ça me paraît haut. Si on ne veut pas fermer de classe ou d'école, il faut baisser à 16 ou à 17. Et voilà. Et en ce qui concerne les trésoreries, on a déjà été bien au fait. Nos trésoriers se sont fait le porte-parole des mauvaises nouvelles en disant « moi, je pars à la retraite, je ne sais pas si je vais être remplacé ». On a déjà le problème avec le paiement des cantines scolaires dans notre communauté de communes. Eh bien, c'est Berger-Levrault qui assure le recouvrement, c'est-à-dire un intervenant qui remplace la perception et qui va lancer les facturations de cantines. Donc déjà, c'est en marche. On ne nous dit rien. On fait la grande muette. Ce n'est pas l'armée chez nous, là, mais c'est le gouvernement maintenant.
Ça va plus loin que ça, Brigitte. Au niveau des perceptions... Il y a quand même une chose que j'ai pu constater, c'est que le souhait d'avoir un regroupement des perceptions, il faut que le travail se fasse quand même. Et bien sûr, ces perceptions sont regroupées parce qu'il y a des pertes de personnel. Mmh. Mais qui c'est qui assume le travail des percepteurs ? Mais ce sont nos secrétaires de mairie. Et aujourd'hui, elles sont toutes à le dire. Elles sont, avec la dématérialisation, elles sont surchargées de travail. Et il y en a beaucoup qui commencent à être en burn-out. Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça.
Oui, il parlait même de privatiser, c'est-à-dire que ce serait des cabinets d'audit qui ferait le boulot de la perception.
Et qui lancerait des audits au niveau des communes pour voir si on fait bien notre travail.
Et ça serait financé par la commune,
Toujours, pas par l'État. Toujours.
Donc ça serait encore des budgets en moins pour...
On finira sur une peau de chagrin quand même. À un moment, on nous prend tout, donc tous les crédits vont servir à ce genre de choses.
Donc on a parlé un petit peu des services publics, donc c'est un des aspects de la déclaration de Macron. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels vous avez été un petit peu choqué des non-réponses ou des attentes qui n'ont pas été satisfaites par ce président ?
Ben oui, je l'ai déjà dit, c'est le numérique. Il y a une attente profonde de la campagne et puis des zones un peu isolées. Donc on ne sait pas toujours où on va. Bon, nous, en ce qui concerne le département, ça y est, je pense que le SMPN, le syndicat mixte Périgord numérique, a pris les choses à main avec un crédit. Mais dans la ligne, sur la deuxième phase, dans la ligne subvention d'État, le président Germinal Peiraud a mis la somme de 0 euros. Donc il va falloir le revoir, ça. Il va falloir revoir. Il y a ça. Il y a la mobilité aujourd'hui. Bon... C'est pareil, comment on va aller dans ces maisons de services publics par canton, puisque c'est ce qu'ils souhaitent. Alors bien sûr, les finances locales, ils nous pompent, c'est le mot, ils nous pompent de plus en plus d'argent. Alors bien sûr, soi-disant qu'il n'a pas touché aux finances locales. Moi, j'ai beaucoup de maires. Je vais prendre un exemple. J'ai le maire de Montpazier qui, lui, a 18 000 euros de moins cette année sur sa dotation globale de fonctionnement. Et j'entends pas mal de maires qui ont plutôt des diminutions que des augmentations. Alors certains ont des augmentations, mais on ne sait pas comment ça vient, on ne sait pas comment ça se fait, comment ça se calcule. Donc ça aussi, c'est un autre sujet majeur, cette fiscalité locale. Et puis il y a aussi, bien sûr, le statut de l'élu. Nous avons demandé le statut de l'élu, rien là-dessus, sinon qu'il est en train de regarder, mais on ne sait pas où on va. Et dernier point, la question que j'avais posée au Premier ministre à Saint-Yrieix, qu'est-ce que vous pensez de prendre en compte le vote blanc? Il m'avait répondu par une question, si je mets le vote obligatoire, qu'est-ce que vous en pensez? Mais la réponse de M. Macron, je l'ai comprise. C'est que s'il s'occupe du vote blanc et qu'il s'occupe du vote blanc majoritaire, avec les 17% qu'il a eu en tant que président de la République, automatiquement il est battu. Alors il ne va pas s'amuser à modifier le vote blanc. Voilà des exemples, mais il y en a à l'appel. Il y en a à l'appel. Donc c'est vrai, On ne va pas revenir dessus, mais pour nous, c'est une véritable déception. Et c'est pour ça qu'on a lancé l'idée. Je m'en vais avec Brigitte et puis d'autres personnes. Je m'en vais à Graveron-Sémerville, dans une commune rurale de l'Eure, où nous avons lancé l'idée, avec pas mal de maires ruraux de France, de lancer cette liste des européennes. Parce qu'il y en a marre, il faut qu'on se prenne en main. Et bon, on va se prendre en main. Et nous espérons que toute la ruralité va nous suivre.
On va en reparler à... deuxième partie de notre émission. André, sur la fiscalité et puis sur la démocratie, le vote blanc.
Ce que je comprends d'abord, ici, s'il y a deux maires qui n'ont pas été écoutés, donc c'est encore une fois un problème de démocratie. Et c'est ça qui est important. Nous, nous nous plaignons de ne pas être écoutés, mais ceux qui nous écoutent et qui sont les maires, qui sont près de chez nous, ça ne remonte pas. Il y a vraiment un problème de fond, d'où découlent tous les autres problèmes, fiscalité, les écoles. Mais le problème de fond, c'est que ceux qui sont en prise avec nos réalités, avec nos difficultés, ne sont pas écoutés. Ce qu'on peut dire de nous, les simples citoyens, qui avons été un peu maltraités quand même, hein, et les plus méritants d'entre nous, les retraités, qui, avec toute une vie de labeur et ayant cotisé le nombre d'annuités, n'ont pas été écoutés. Ils ont même été en premier spoliés. Alors, fiscalité, il vient de nous dire qu'il va nous rendre ce qu'il nous a volé. C'est comme ça que nous le voyons, monsieur. Mais tout ça ne se passerait pas si ceux qui sont près de nous, les premiers maillons, la première chaîne, plus petit maillon de la démocratie représentative, qui sont les maires, s'ils avaient été écoutés, ça serait remonté, et nous n'en serions pas là dans la rue depuis 5 mois, et ça continuera. Parce que il compte, y a quelqu'un qui compte au ministère de l'Intérieur, tous les samedis, il y a un nombre qui baisse, mais le problème n'est pas supprimé. C'est pas parce que des gens ne sont pas dans la rue qu'ils ne souffrent pas dans leur foyer. Lorsque nos voisins, lorsque nous allons sur les rassemblements, ils nous disent « bravo, merci », ils savent très bien, on leur en veut pas. Mais ils ont les mêmes problèmes que nous. Ils réagiront dans les urnes comme nous. Et tout ça ne serait pas arrivé si les maires qui sont ici, M. Cassan m'a invité, s'ils avaient été écoutés. Voilà, tout simplement.
Brigitte ?
Ben oui, je rejoins tout à fait ce qu'il a dit. Depuis le début, on lui a laissé une chance. Au mois de décembre, quand on a vu, au mois de novembre, que ça partait à volo, on a eu une idée, les maires ruraux, de faire un cahier de doléances. Mais moi, j'ai vu dans ma petite mairie, j'ai eu plus de 50 personnes qui sont venues. Alors c'est de tout genre, de toutes choses, chacun a son problème. Ça passe, j'en avais parlé, des enfants handicapés, au projet d'éoliennes, à des tas de choses. Mais c'est les préoccupations de chacun, c'est la limitation de vitesse, c'est enfin tout, les écoles, la vie civique, la finance, enfin tout, les gens. Et on se targue, on se dit « oh chic, il n'y a que 15 000 manifestants ce week-end ». Mais ce n'est pas cela que je crains, moi. Les black boss, bien sûr, il y en aura black je ne sais pas quoi, là, les black...
Black boss,
des black boss, moi, mais bon. Ceux-là, je les crains parce qu'ils sont dangereux, mais ce n'est pas les vrais gilets jaunes. Donc, à un moment, les gilets jaunes, ils sont chez nous, ils attendent. Ceux-là, oui. ils sont pleins d'espoir. Et des gens qui n'ont plus d'espoir deviennent, je pense, plus dangereux que les black boss. Black box.
Nous allons faire une petite pause musicale et on va reprendre le débat sur la question des propositions que vont faire les maires ruraux pour les européennes.
Il y en a.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, elle a peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y'a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau. La campagne les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, il y a l'instit du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
Bon, ben, nous allons reprendre notre débat. Donc, tout le monde le constate, M. Macron n'a pas répondu aux attentes des maires. Il y avait déjà des propositions par rapport à ça de ne pas remettre les résultats des élections européennes. Je vois qu'il y a une autre proposition, c'est le boycott des élections qui est proposé par un vice-président national. Et il y aurait une troisième proposition qui serait de présenter des listes, une liste de maires ruraux. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus d'éléments par rapport à ça et comment ça va se dérouler et quel type d'action le bureau national de l'association des maires ruraux on n'a plus qu'un mot. Hein.
Tout d'abord, je voudrais remercier cette radio locale de nous avoir passé pendant cette première mi-temps, si j'ose dire, Sergovin, parce qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup de discours, il suffit de suivre ce qu'il dit dans sa chanson, qui est pour nous très importante. Alors, ça, c'était pour un petit peu pour l'aparté. Et c'est vrai que nous avons décidé, ça commence à bouger au niveau national. Donc moi, j'ai eu le vice-président Guy Clua, qui est le président des maires ruraux du Lot-et-Garonne, qui bien sûr m'a appelé immédiatement après les propos de M. Macron, étant donné que nous, le Périgord, nous avions lancé, et ça a été repris à l'Assemblée Générale dans l'Aveyron, l'idée de ne pas rendre les résultats des... On faisait quand même, parce qu'on respecte la démocratie, on faisait l'élection européenne, mais on ne rendait pas les résultats, on demandait aux préfectures de venir la chercher dans nos mairies. Donc ça, ce sujet-là, on attendait, par respect des institutions, que M. Macron annonce ce qu'il allait faire après ce grand débat. Et aujourd'hui, on a bien compris, et c'est pour ça que Guy Clua a immédiatement demandé de réunir le bureau national pour remettre cette question à l'ordre du jour, puisqu'on devait avoir une réponse après M. Macron. Donc à l'heure actuelle, il va y avoir très rapidement une réunion du bureau national, et ils vont débattre sur le fait de « oui, on ne rend pas les résultats, non, on les rend ». Donc ça, la question va être tranchée. Donc on ne peut pas trop en parler de suite, puisque la question n'est pas tranchée, mais ça va venir. Une deuxième chose est arrivée derrière. On en avait...
Justement, oui. Il parle du boycott des élections européennes.
C'est pas un boycott, c'est de ne pas rendre les élections européennes.
D'accord.
Voilà. Je le précise parce que la démocratie fait que les élections européennes, il faut qu'elles se passent, qu'elles se fassent tout à fait légalement, tout à fait démocratiquement, et il faut que les électeurs puissent aller voter. Donc les mairies seront ouvertes.
C'est important de préciser les choses. Ouais.
Voilà, les horaires seront respectés. La seule chose, c'est que les résultats, on ne les rendra pas. C'est à l'État de venir les chercher chez nous. Pour des raisons de mobilité, puisqu'on n'a plus les compétences transport, et puis aussi pour faire voir que la commune, elle est utile, qu'on sert à quelque chose. Voilà. Donc ça, c'était le premier point.
Sur le deuxième point.
Alors, sur le deuxième point, ce qui s'est passé à Najac, dans l'Aveyron, à notre Assemblée générale, il y a un président d'un département qui est celui de la Marne, Guy Barba, qui a lancé l'idée avec d'autres maires ruraux et puis avec des gens de la société civile de carrément lancer une liste aux européennes. Donc il en avait parlé, ça n'a pas trop percuté par certains de nos collègues maires. Et puis subitement, là, avec les réactions de Macron, cette idée elle est en train de vraiment monter, de germer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai regardé un petit peu le lancement de leur opération à Château-Renard. Je vous invite tous à aller donc sur leur site. C'est Fédération Citoyenne. Tout le monde peut y aller. Vous allez tomber dessus. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Et j'ai tenu, moi, en tant que maire rural, parce que ce n'est pas la MRF qui l'a initié. Ce sont des maires ruraux, bien sûr, qui font partie de la MRF. Et donc je me rends avec Brigitte Cavirol. Demain matin, je pars à 4h du matin, je me rends à Graveron-Sémerville, c'est une commune rurale de 1000 habitants dans l'Eure, où là nous réunissons tout un panel de maires, je pense que nous serons nombreux, avec bien sûr tous les médias, pour lancer notre liste des européennes. Et personnellement, je me porte candidat à être sur cette liste, parce que je trouve qu'il faut, il faut y aller. Il faut avoir du courage et il faut y aller, parce que sinon, on n'arrivera à rien. Et c'est vrai que l'Europe, c'est aussi, ça fait partie de notre démocratie. Moi, je suis un Européen convaincu, mais pas cette Europe-là. Je veux pas l'Europe de moi de l'argent. Je veux l'Europe des nations. Je veux une Europe fédérale. Donc, quelque part, c'est très important que même en Europe, la ruralité se fasse entendre.
Donc, tu précises bien que c'est des initiatives individuelles de maires ruraux, mais c'est pas l'association des maires ruraux qui lance une liste.
C'est exactement ça. C'est exactement ça, mais...
— Pour que ça soit clair pour tout le monde.
— C'est très clair. Mais je peux te dire que y a vraiment une grosse majorité de maires ruraux qui vont dans cet axe-là. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a des gens de la société civile. Et alors le hasard a fait que je ne le savais pas. Il y a un médecin-chercheur qui, en plus, travaille sur la réinsertion des jeunes, qui travaille beaucoup sur les jeunes, qui est à la retraite aujourd'hui. Elle s'appelle Anne-Marie Béguet-Simon. Et il s'est trouvé qu'elle est de la région de Bergerac. Et je vais la rencontrer tout à l'heure, parce qu'elle est très intéressée. Je l'ai eu au téléphone. Et c'est vrai que, quelque part, on a envie de travailler avec des gens comme ça. Il y a aussi un docteur vétérinaire qui se spécialise un petit peu sur la biodiversité. Il y a un grand écrivain. Ils sont plusieurs écrivains. Il y a Alexandre Jardin. C'est quelqu'un quand même qui se bat aussi pour la ruralité. Donc tout ça fait qu'on peut faire une liste très partagée, mais bien sûr à majorité de maires ruraux, pour aller expliquer ce qu'on veut faire au niveau de l'Europe par rapport à notre ruralité.
Tu parles de société civile, mais nous, les maires, nous sommes issus de la société civile.
Exactement.
Donc on est un exemple flagrant de la société civile. Donc c'est bien qu'il y ait des gens qui n'aient pas d'élus qui soient présents, mais disons que nous, tous, dans notre diversité, on est issus de cette société.
Oui, c'est bien de préciser que les maires, c'est, surtout dans les communes rurales, c'est des gens qui travaillent, qui ont un métier et qui ne touchent que des petites indemnités.
Oui, on ne vit pas de nos indemnités.
Ils ne vivent pas, comme les grands élus, des indemnités. Je crois que c'est important de le signaler. Parce que les gens, ils pensent que les maires... en gros, pactole tous les mois, c'est pas le cas.
Mais on peut penser aussi qu'on dépense nos indemnités en gasoil.
Et puis, c'est sur
la Dordogne est basse.
Ça va très vite. Et je pense qu'on a des auditeurs, tout le monde ne le sait pas, mais 90% des maires ruraux de la Dordogne, notre indemnité, elle est de 500 euros en gros. Donc vous voyez qu'avec 500 euros, on ne peut pas vivre. Hein.
Il faut non, bien qu'on fasse autre chose à côté.
C'est bien de le préciser.
Oui.
Et par contre, c'est bien aussi de préciser le nombre d'heures que vous passez à la mairie en tant que bénévole.
Entre 10 et 12 heures par jour.
Donc on voit que vous êtes loin du SMIC.
C'est une occupation passion, hein, je pense aussi.
Oui, c'est plus une vocation qu'autre chose. Voilà.
On y prend aussi un réel plaisir, même si on est des fois en grande difficulté.
Comme je l'ai toujours dit, ma commune, c'est ma seconde famille. Et je pense qu'on est beaucoup à penser la même chose.
Exactement.
Brigitte, un petit mot par rapport à ces propositions.
Ben, écoute, moi, je suis enchantée. Quand j'ai reçu le mail, j'ai tout de suite téléphoné à Alain en lui disant, ben, écoute, moi, je t'accompagne parce que je trouve qu'il faut absolument qu'on se bouge. Si on ne bouge pas, ben, je crois qu'on... après ça, ben, c'est le déluge, quoi. Il n'y aura plus rien. Je veux dire, on est en plein dedans, on a essayé de secouer les choses, on avait beaucoup d'espoir en M. Macron qui a été élu pour laver plus blanc que blanc, on s'aperçoit que la lessive est bien grise. On a essayé de faire des choses, je reviens à mon cahier de doléances, on s'est dit... On ne va pas faire retarder les résultats des élections européennes, puisque bon, il va nous donner quelque chose, puisqu'on attendait quelque chose. Ça fait longtemps qu'il nous fait marner, mais on est vraiment patients, nous, les Français. Moi, je n'en reviens pas quand même. Hein. Ça fait 5 mois qu'il nous roule dans la farine et qu'il blablate. Et puis, pour un résultat comme ça, moi, je suis forcément déçue. Donc, je trouvais une opportunité. Je me suis dit, ben, y en a qui se bougent, et ben, bougeons avec.
André, par rapport à l'attitude des maires ruraux sur cette liste européenne et les propositions de ne pas rendre les résultats, est-ce que tu as un petit avis à donner ?
Alors, d'abord, si nous sommes ici aujourd'hui, si je suis ici représentant, porte-parole, pas représentant, porte-parole de Gilets jaunes, c'est grâce quand même à un maire rural. Les maires ruraux sont très près de nous. Toutes les initiatives qui tendraient à rapprocher le citoyen des élus, mais concrètement, hein, pas le système actuel... Eh bien, nous applaudissons des deux mains. Enfin, moi, j'applaudis des deux mains. J'en discuterai avec mes amis Gilets jaunes. Mais toutes les propositions, y compris de ne pas faire remonter les résultats parce que les maires ruraux sont dépourvus de tout moyen, privés de tout moyen, moi, j'applaudis des deux mains. J'applaudis tout à fait. J'apprécie tout ce que M. Castan a pu dire. Hein.
Alain, il te reste 2 minutes pour conclure.
Mais déjà, moi, je l'ai dit à certains Gilets jaunes, j'ai déjà changé ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que dans la commune, dans ma propre commune, jusqu'alors, j'essayais d'être le plus démocrate possible, mais je me suis rendu compte qu'on pouvait aller plus loin. Et donc, je l'ai dit aux Gilets jaunes, quand il y aura des sujets majeurs dans ma commune, je demanderai l'avis de la population. Je vais citer un exemple, mais alors qui est criant, c'est les fusions de communes. Moi, je suis pas contre les fusions de communes quand elles sont désirées. Mais à l'heure actuelle, on en a en Dordogne qui ont été choisies par les conseils municipaux. C'est pas normal. Quand on fait une fusion de communes et qu'on marie sa commune à la commune d'à côté et que le nom de la commune souvent disparaît, il faut demander l'avis à la population.
Voilà.
S'il y a une majorité,
voilà,
ils le font. S'il n'y a pas la majorité, bravo, ils ne le font pas.
Oui.
Voilà, 10% des communes qui ont disparu. Hein.
Oui.
Dans 10%, 50 communes qui ont disparu.
Mmh. Oui, oui.
En un an.
Mais voilà.
C'est grave.
Mais sans l'avis de la population.
Oui.
Bon, ben, on vous remercie pour cette émission. Donc, au mois prochain.
Ben, on croise les doigts. Au mois prochain, on croise les doigts et on aura peut-être un candidat en Dordogne pour les élections européennes.
Puis, des bonnes nouvelles, peut-être aussi.
Et puis, peut-être des bonnes nouvelles. Peut-être que M. Macron va changer d'avis.
Je remercie à tous et à bientôt.
Et merci, André.
Merci.
Merci.